On va l'amener au fond complètement. Ça vous libérer l'espace.
Oui, 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 mais c'est bien. C'est ça, je reconnaissais votre figure, mais l'annonce qu'elle est là.
Attends, on va y aller en fait.
Alors bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est comme à la messe, l'obscurité nous envahit. Alors, ça, à peu près. Mais c'est vrai, avec les plaideurs. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir à la conférence Urba 2015. Celle de ce soir suit celle de la semaine dernière qui suivait celle de la semaine avant. Alors, il y a une certaine dose d'intensité dans l'organisation des conférences en ce moment. Le sujet de ce soir, je vous rappelle que le Forum Urba 2015 est une plateforme de réflexion sur les conditions de réussite des villes de l'avenir. Puis je rappelle toujours le thème central, parce qu'on essaie de s'y tenir. On essaie de travailler sur le lien dans la planification entre l'aménagement et les transports, en mettant aussi l'accent sur la gouvernance et le financement dans les conditions de réalisation. C'est une approche de transfert d'expertise. Et cette année, nous avions pris comme fil conducteur de pouvoir travailler autour de la nouvelle politique sur la mobilité urbaine qui était annoncée après les consultations du mois de juin, comme devant être approuvée en septembre. Alors on s'y était pris de telle façon qu'on avait planifié une série de thèmes qui pouvaient contribuer à cette nouvelle politique. Comme la politique n'a pas encore été votée, on est resté quand même avec les mêmes sujets et puis les conférenciers qui avaient été invités. Donc ce soir, c'est une conférence plus spécialisée qui va être concentrée sur un sujet qui n'est pas souvent traité. À Montréal, contrairement à beaucoup de villes européennes et même maintenant aux États-Unis, les réponses aux demandes de déplacement en transport collectif se font principalement comme réponse par deux grands types de moyens. Le métro, qui est un mode de grande densité, comme le train de banlieue, puis à l'autre bout, les autobus, qu'ils soient simples ou doubles. Or, on a dans la région métropolitaine des niveaux de déplacement ou de quantité de déplacement d'automobiles qui peuvent justifier des interventions pour des modes intermédiaires. Puis c'est à partir de ça qu'est venue l'idée de la conférence de ce soir et l'invitation qui a été adressée aux deux personnes que je vais vous présenter. Je vous dis tout de suite que ces deux personnes qui sont commanditées par personne, qui ont réfléchi sur le sujet, qui vont nous livrer leur réflexion. Ils ont travaillé sans subvention pour préparer la présentation de ce soir. Alors je vous les présente, ils vont à tour de rôle pendant la prochaine heure expliquer le résultat de leur réflexion, de ce qu'ils ont observé à l'extérieur, et puis de Montréal, et puis ce qui pourrait se faire à Montréal. Alors je vais commencer par, la plupart d'entre vous, vous les connaissez de toute façon, je vais commencer par Luc Gagnon, qui est un PhD, qui est président actuellement du groupe Options Transport Durable. Il a été président de Transport 2000 de 2000 à 2008. Il a en particulier suivi... J'ai dit 2008 à 2009, excuse-moi. Suivi du... C'est mes lunettes qui sont pas assez grosses. Suivi du projet de... Il a suivi en particulier le projet SRBP9, qui n'est pas encore terminé. Il est professeur associé à la chaire en éco-conseil de l'UQAC. Il a en particulier travaillé pendant à peu près toute sa carrière à Hydro-Québec et en particulier autour des dossiers d'électrification des transports. Et il a piloté en 2013 un projet conjoint sur l'évaluation des vrais coûts de l'automobile privée. Un projet conjoint UQAC-HEC. Quant à Régent Benoît, il est analyste en transport, auteur du livre Tram World, créateur de la base de données Tram Expert, et comme analyste pour la firme Genivar, il a en particulier participé aux études de faisabilité de la première ligne de tramway moderne au centre-ville de Montréal. Alors, je leur cède la parole. Il y aura une période d'échange et de questions par la suite. Et bonne chance.
Bonsoir, je voudrais d'abord remercier Madame la professeure de l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici ce soir parce qu'on sait que les gens qui sont ici sont de haut calibre. Je voudrais quand même réitérer à la blague, mais sérieusement, que nous n'avons reçu aucun montant de Bombardier, de Alstom, quoi que ce soit pour notre présentation et nos travaux depuis 6 mois. C'est que tout ça, c'est bénévole. Fait que c'est parti. Je m'excuse, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui sont un peu, je dirais, arides là, au début, surtout parce qu'on s'est aperçu dans la littérature qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans les termes, surtout quand on regarde des termes en français ou en anglais. Mise en situation, toutes des choses qu'on sait un peu, là, mais quand même rappeler que c'est 14 milliards les importations de pétrole au Québec à chaque année. Et on oublie souvent le 7 milliards des importations d'auto et de pièces d'auto aussi. Et la tendance, c'est la hausse des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, alors qu'on fait des progrès dans tous les autres secteurs. Le secteur des transports, lui, augmente beaucoup. Dans la région de Montréal, bien évidemment, tout le monde connaît les problèmes de congestion, mais il faut aussi comprendre que ça va juste être pire à l'avenir avec tous les grands travaux qui s'en viennent. Ça fait que tout ça, c'est des choses, des éléments de contexte importants. Et ce qui est particulièrement intéressant, parce qu'on va s'appuyer un peu là-dessus, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal, c'est peut-être pas aussi visible que d'autres institutions publiques, mais a quand même exprimé très, très clairement qu'un des objectifs qui doit être implanté dans la région de Montréal, c'est de créer ce qu'on appelle des TOD, des zones de Transit-Oriented Development, où est-ce qu'on vise à densifier le développement pour s'assurer que finalement on a du transport en commun, mais il ne suffit pas d'avoir du transport en commun, il faut que la clientèle soit là. Ça fait que les TOD, c'est comme l'instrument, le complément du développement du transport collectif. Tendance, ben dans le fond, Florence en a parlé, c'est quand même surprenant. Si on regarde le portrait partout, c'est une grande variété d'options, alors qu'il y a pratiquement juste au Québec où tout ce qu'on a, c'est des métros, trains de banlieue, autobus et aucun tramway ou trolleybus. Ah, puis très peu même de services rapides de bus. Ici, c'est un peu... C'est important parce que vous allez voir, il y a quelques images qu'on a reprises qui viennent de par exemple, de Toronto et le vocabulaire n'est pas toujours pareil. Quand on parle, je pense que c'est assez évident pour les autobus, quand on parle de services rapides de bus, on parle de projets là, ou vraiment de voies réservées permanentes. En France, ils appellent ça des bus à haut niveau de service, donc c'est le genre d'expression. Mais là où je voulais juste quand même clarifier, c'est que quand on regarde les données américaines, Quand on regarde streetcar, c'est un tramway, mais un tramway de relativement faible capacité en plein dans des milieux urbains, alors que quand on parle de tramway de moindrement grande capacité ou de tram-train qui a une plus grande vitesse, on appelle ça des light rail transit. Mais en fait, si on parle en français, ce sont des tramways. Fait que c'était un peu dans cet esprit-là là, que j'ai quand même vérifié la nomenclature. Beaucoup d'éléments de la présentation aujourd'hui sont axés sur la capacité des modes parce que c'est ça qui fait que je pense qu'on aura un système plus efficace de mieux adapter les modes à la demande par rapport à leur capacité. Et ici, c'est important, on voulait montrer cette image-là parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Comme par exemple, même il y a une donnée qui est un tableau qui est réutilisé partout au Québec dans des études où on dit que le tramway a une capacité de 200 personnes par rame, ce qui est vrai pour un tramway relativement petit, mais on a toute une gamme de tramways où on peut aller jusqu'à 468 passagers en termes de capacité. Ça fait qu'il faut vraiment faire attention avec les données quand on annonce un chiffre parce que on pourrait conclure que le tramway ne permet pas vraiment d'avoir une grande capacité alors que c'est possible dans beaucoup de cas. Évidemment, si on parle de capacité, ce que je vous donnais, c'est la capacité d'un autobus, d'une rame de métro, mais ça dépend aussi de la fréquence. Fait que si on multiplie les fréquences, on peut avoir vraiment, là, on exprime quelque chose qui serait, par exemple, la capacité maximum sur une heure avec une fréquence, par exemple, de 2 ou 3 minutes. Mais ce qui est quand même important de voir, c'est que si vous regardez partout dans la littérature, quand on parle autant des autobus, des tramways, tout ça, quand on parle d'intervalle de 2 minutes, ça commence à être très serré. Ça fait que vous allez voir qu'il y a certains projets qui sont actuellement en considération, qui ont des intervalles tellement plus courts que ça, que ça n'est surprenant. Ici, je vous présente, ça vient de Toronto Transit, je me souviens plus, là, la compagnie qui va s'occuper du développement. Et c'est sûr que c'est difficile là, de souvenir de tout ça, mais effectivement, ce qu'on a fait ici, c'est qu'en fonction d'un intervalle qui serait raisonnable, on illustre combien de personnes peuvent aller dans une direction pendant une heure. Fait que regardez quand même si on regarde, par exemple, un service rapide de bus. À 6 000 comme capacité, ça peut fonctionner, mais ce qu'on nous dit, c'est que ça devient très difficile de dépasser ce genre de capacité-là. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, bien, ça ici, c'est le tramway, mais dans le monde anglophone, souvent, ils vont utiliser streetcar pour les très petits tramways. Autre élément, parce que ça va revenir, je m'excuse d'être un peu technique, c'est qu'on a beaucoup tendance à dire, bon, bien, un tramway pourrait être justifié, par exemple, à partir d'un achalandage de 40 000 par jour. Ce genre de données-là, par jour, sont assez trompeuses parce que vous avez beaucoup d'autres considérations qui peuvent affecter ça. Puis un exemple qui illustre bien ça, c'est l'autobus 121 Côte-Vertu Sauvé, qui est, en fait, quand on regarde les statistiques officielles, c'est le circuit d'autobus qui a la plus haute demande, je pense que c'est 35 000 ou un peu plus même. Mais dans les faits, c'est composé, on peut dire, de 3 circuits différents parce qu'en plein milieu, il y a 2 stations de métro. Ça veut dire que vous avez des gens qui viennent de l'Est qui vont à un métro, un autre qui vient de l'Est à l'autre métro, puis le circuit central. Ce qui fait que vous pouvez avoir 35 000 personnes sur un réseau comme ça qui va être beaucoup moins congestionné que, par exemple, le circuit Jean Talon qui a, lui, un achalandage moindre, mais qui est vraiment unidirectionnel, tout le monde en même temps dans la même direction. « Donc, c'est sûr qu'on nous a posé beaucoup de questions aussi parce que vous nous voyez venir qu'on parle quand même beaucoup de tramway, mais une option très intéressante, c'est la question des trolleybus. Surtout dans un contexte où est-ce qu'il y a un désir fort, un consensus pour l'électrification des transports. Je pense que c'est important de bien comprendre le rôle ou le potentiel du trolleybus par rapport à d'autres options. La capacité du trolleybus, je n'ai peut-être pas insisté, c'est la même qu'un autobus articulé. Ça fait qu'on ne peut pas dire nécessairement qu'il y a un gros, gros avantage en soi. Par contre, il y a quand même un avantage énergétique. L'efficacité est 4 fois meilleure, les économies d'énergie, donc ça coûte à peu près 25% des coûts énergétiques d'un autobus diesel. C'est beaucoup plus silencieux, puis ça élimine la pollution, mais on va voir que c'est quand même, une option qui n'est pas facile à justifier quand on regarde les coûts. D'ailleurs, je ne sais pas si, en tout cas, peut-être dans la période de questions, s'il y a quelqu'un qui est au courant, en 2012, la STM parlait vraiment de 4 projets de trolleybus à Montréal, puis c'est le genre d'enjeu de projet qui m'apparaissait très intéressant, mais on n'entend plus parler depuis ce temps-là. Là, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'un des obstacles au trolleybus, c'est les fils. C'est souvent, comme la perception, c'est de dire, mais aussi pour les tramways, que les fils vont être un gros, gros problème en termes d'aménagement du territoire. Ici, je vous donne une citation qui a été faite d'une longue étude à Grenoble, où est-ce qu'on regarde plusieurs projets de trolleybus, pas juste à Grenoble, mais ailleurs. Et on s'est aperçu que juste le fait de transformer un réseau d'autobus diesel en trolleybus, ça crée une confiance et une image de service tellement plus grande que ça augmente l'achalandage de 10 à 30 %. Et ce qui est particulier, c'est pourquoi que ça fait ça? C'est à cause du fil. C'est le fil qui crée la confiance dans l'existence à long terme d'un excellent service. Fait que pour eux, le fait qu'il y ait un fil électrique, ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Et cet enjeu-là, ce n'est pas juste théorique. Si on regarde, par exemple, peut-être 2008 à peu près, il y avait un beau projet de trolleybus à Laval sur le boulevard Concorde et ce projet-là a été abandonné. Je ne dis pas qu'il aurait été rentable ou quoi que ce soit, là, je ne sais pas, mais il a été abandonné simplement à cause des fils et aussi à cause du fait qu'il y avait une confiance. Les élus avaient confiance que, de toute façon, dans 3-4 ans, on aurait des autobus électriques à batterie, donc on pourrait avoir la même qualité de service sans avoir les fils. C'est pour ça qu'on s'est senti obligé quand même de parler 2-3 images sur les autobus à batterie. Excusez mon rhume, mais... Beaucoup, on a vu dans les journaux, souvent on dit que les autobus électriques à batterie auraient une autonomie de l'ordre de 200 km. Mais ça, c'est vraiment trompeur parce que c'est à vitesse constante avec personne dedans. Mais une fois que vous êtes en milieu urbain avec des cycles d'arrêt en rapport, avec du chauffage, et ça, c'est des données officielles de la STL, des tests concrets, c'est 68 km. Ça fait que c'est loin d'être suffisant pour avoir une autonomie commerciale. Les contraintes, mais en fait, c'est la même chose pour les autos électriques, c'est que le chauffage est un problème, mais c'est aussi que le fait que les batteries soient froides, leur capacité est réduite. Mais dans le cas des autobus, je pense qu'il y aurait probablement moyen, avec les nouvelles technologies, éventuellement, de surmonter certains de ces obstacles-là. Ce qui n'est pas facile à surmonter, par contre, c'est qu'un autobus électrique a besoin de 3 ou 4 tonnes de batterie. Ça, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir changer ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on avait des autobus électriques à batterie, à cause des 3-4 tonnes de batterie qui représentent quelque chose comme 50 passagers en termes de poids, on doit considérer que la capacité d'un autobus électrique à batterie est de l'ordre de 50 passagers, alors que vous avez, par exemple, un autobus articulé à 120. Fait que les autobus électriques à batterie probablement sur un horizon de 20 ou 30 ans, n'auront jamais une capacité suffisante pour dire que ça remplace un projet de trolleybus, puis évidemment encore moins un projet de tramway. Une autre option qui a été beaucoup discutée dans les options d'électrification, c'est de dire, comme effectivement les batteries c'est 3 ou 4 tonnes, c'est un peu trop pénalisant pour rendre l'autobus efficace, ça serait d'avoir des batteries moindres, qui auraient peut-être une tonne ou une tonne et demie, et d'avoir ce qu'on appelle, le terme commun, si on appelle ça du biberonnage. En fait, c'est une recharge successive où est-ce que l'autobus, sur son trajet, va à 5 ou 6 reprises avoir un système d'induction qui le recharge très, très rapidement, pendant peut-être une minute. Fait que le fait d'avoir ce système-là, ça veut dire que la charge de batterie est beaucoup moindre. Par contre, ça a été bien, bien étudié. Je t'en prends encore la même étude à Grenoble. Si on voulait remplacer un trolleybus par des autobus à batterie avec biberonnage, le coût de l'électricité serait multiplié par 10. Parce que tout simplement, il faut que quelqu'un paye pour toutes les stations de recharge successives qui sont, dans le fond, l'équivalent de gros postes électriques très, très coûteux. Fait qu'on perdrait le gros avantage de l'électrification, c'est de consommer moins d'énergie puis d'avoir de l'énergie moins chère. Mais avec ce scénario-là, on en perd l'essentiel du bénéfice. Donc, on repart vraiment là, sur les besoins du réseau. Je pense que c'est peut-être le genre de choses qui est plus captivant, qui est moins théorique. Si on regarde comme faux ce tableau-là, c'est toutes les lignes de 10 minutes et moins de la STM. Regardez à quel point il n'y a presque rien sauf à l'est. Puis ici, bien évidemment, vous avez la ligne orange du métro. Fait que qu'est-ce qui se passe avec un scénario comme ça? Vous avez des grosses, grosses lignes, Henri Bourassa, Sauvé, Jean Talon, tout ça se rabat sur la ligne orange. Aux heures de pointe, la ligne orange, les dernières stations, là, comme Laurier, les gens ne sont même plus capables d'embarquer tellement qu'il y a une surcharge dans le système. Fait que ce qui est très, très clair, c'est que la ligne orange est surutilisée et s'il y a quelque chose de prioritaire en termes de réseau, c'est de créer un lien nord-sud. Et ce lien nord-sud-là, ça fait longtemps que j'ai été impliqué, c'est toute la question de Pineuf. Pineuf, c'est la meilleure option parce que c'est un boulevard assez large et il y a un pont pour aussi desservir Laval. Fait que ça fait, dans le fond, 15 ans qu'il y a des débats comment développer Pineuf pour créer un bon service sur Pineuf. Petit rappel quand même, consensus pour ne pas surcharger la ligne orange. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Les deux projets qui sont réalisés et promis, c'est deux projets SOS qui augmentent l'achalandage sur la ligne orange. Le train de l'Est qui prévoit 5 500 usagers en pointe du matin. C'est difficile de savoir combien vont débarquer à la station Sauvé, mais on peut sûrement penser que ça va être de l'ordre de 2 500. Ensuite, on parle de l'extension de la ligne bleue du métro Anjou, qui aurait 10 000 nouveaux usagers. Encore une bonne partie de ce monde-là vont débarquer ça serait à Jean Talon pour prendre la ligne orange. Fait que dans les faits, on est en train, même s'il y a un consensus sur un réseau nord-sud, on est en train de faire exactement le contraire. Et si on regarde, si on maintient tel que prévu par l'AMT un réseau d'autobus sur Pineuf, c'est estimé que ça réduirait la charge sur la ligne orange d'environ 2000. Fait qu'on voit que la tendance, c'est plutôt d'augmenter la charge sur la ligne orange au lieu de la diminuer. Ces deux projets-là, SOS, très, très chers. Je ne vais autant pas m'étendre là-dessus. Quand je parle contre une portion du train de l'Est, il y en a qui ne m'aiment pas, ça fait que je passe. Mais revenons donc, on n'a rien, Régent et moi, on se fait souvent dire « Pourquoi vous n'aimez pas le métro? » Le métro, c'est fantastique. Notre seul problème des fois avec le métro, c'est que comme la ligne bleue, elle va coûter 1,8 milliard pour 4 ou 5 stations. Fait, est-ce que ça, c'est justifié? Prenons les données annoncées par l'AMT. On parle de l'heure la plus achalandée, environ 10 500 passagers. Si on regarde la capacité maximale, peut-être que c'est un peu trop élevé, là, c'est du monde un peu trop tassé, mais peu importe. On revient un peu dans ces eaux-là. C'est que l'intervalle avec des rames complètes de métro, ça serait 8 minutes. Puis dans les faits, ce qui va arriver, c'est que même avec l'extension, on va continuer à avoir une ligne de métro avec seulement 6 wagons au lieu de 9 parce que la capacité, la demande n'est pas là pour l'utiliser. Et ce qui est particulièrement surprenant, encore là des données de l'AMT toujours, c'est que l'achalandage prévu pour les autobus sur P9 est presque aussi élevé que celui du métro. Fait qu'on arrive à 9 000 passagers pendant l'heure à la plus achalandée. Et en d'autres mots, pour deux lignes qui ont à peu près la même demande, on a d'un bord pour le métro, disons, 7 rames qui font le service, et l'autre bord, ça prend 100 autobus à l'heure de pointe. Puis ça, je vous jure, on l'a bien calculé, on l'a revérifié pour rencontrer la demande de pointe avec des autobus articulés. Et bien, il y aurait quelques autobus qui ne seraient pas articulés, qui viendraient des banlieues. Mais ça prend 100 autobus avec un intervalle de 36 secondes. Ça, c'est pratiquement unique si vous regardez la littérature sur les services rapides de bus. Puis, ce qui est clair, c'est que ceux qui sont des usagers, vous avez expérimenté ça, c'est qu'aussitôt qu'arrive un petit pépin, par exemple, qu'il y a trop de monde qui rembarque dans un autobus, ça ralentit le premier autobus, les autres le rattrapent, et etc. Fait que le scénario P9, qui est à peu près inévitable, c'est 5-6 autobus qui se suivent aux 3 minutes, les 3 premiers bondés bien durs, puis les 4e, 5e plus ou moins vides. Fait que c'est vraiment un scénario qui n'est pas du tout viable à long terme, très peu efficace. Et pour le faire fonctionner, ça prend absolument des priorités au feu, mais excepté que penser qu'un autobus qui remplit, qui repart au feu, il y a sa priorité, l'autre qui remplit, qui repart tout de suite, en fait, on va avoir pratiquement besoin de 90 % du temps accordé à une direction pour que les autobus réussissent à passer. Fait que si ça marche, c'est peu probable, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de circulation est-ouest dans tout le secteur. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a des tramways dont la capacité, c'est à peu près 4 autobus. Fait qu'on pourrait très bien, sur ce circuit-là, on va voir que les données économiques sont très, très faciles à démontrer comment que ça serait un projet fantastique et très, très performant. Mais évidemment, il y a tous les avantages du tramway. Je pense que je vais passer parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle quand même de ça, là, tout ce qui est des avantages en termes de services, accessibilité aussi. Regardez comment on dépense cher pour construire des ascenseurs dans les stations de métro. Le tramway, lui, il est accessible tout le temps, sur tous les wagons. Fait que si je vous présente notre proposition de ligne, en tout cas, évidemment, ça, tout ça, c'est sujet à discussion, mais c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air comme projet. Là, ici, vous avez la première portion, c'est la portion nord, disons, entre Jean Talon, et on propose d'aller jusqu'à Laval, jusqu'à Saint-Martin, avec 3 stations à Laval. Je pense que ça fait partie des éléments stratégiques très importants si on veut convaincre le gouvernement du Québec de soutenir des tramways. Il faut pas penser que ça va être juste Montréal. Ça prend aussi de la desserte dans la banlieue ou la périphérie. Pour le métro, la ligne bleue, on propose de la remplacer par une ligne de tramway. Remarquez quand même, je pense que dans tous les cas, par exemple, on pense que ce serait bon de garder l'extension du métro jusqu'à la station P9, une station, pour compléter le réseau. Mais ça veut dire que les 4 autres stations, on les remplace par 9 stations de tramway, incluant une desserte à l'est de la 25, ce qui n'est pas possible de faire avec le métro. Fait que non seulement, vous allez voir, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, mais on pense que c'est un bien meilleur service parce qu'il y aura plus de stations et une couverture plus large du territoire. Portion sud, là, c'est plus évident, c'est juste Pinneuf tout le long, jusqu'on dépasse évidemment la station Pinneuf sud. Mais tout ça, un des buts, c'est d'amener beaucoup de monde sur la ligne verte du métro au lieu de les amener sur la ligne orange. Quelques petites mises en garde, parce que souvent, on nous a dit, oui, mais le SRB Pinneuf, c'est beaucoup moins cher. Bien, soyez vigilants. Quand on parle du 305 millions pour le SRB Pinneuf, on n'inclut pas les autobus, ni les garages, aucun matériel roulant. Là. Ça fait que penser que ça, c'est un service qui a besoin de 100 autobus aux heures de pointe, on ne peut pas faire semblant qu'on n'inclut pas le coût des autobus. Alors que quand on parle des coûts des tramways, on inclut toujours le coût du matériel roulant. Fait que si c'est juste deux estimés qu'on a pris la même méthode de calcul que la Chambre de commerce pour le quand ils ont évalué le métro Côte-des-Neiges, bien, ils ont regardé le nombre d'autobus remplacés et on arrive à des chiffres comme ça. Fait qu'on parle quand même de 190 millions de plus, ce qui est quand même pas insignifiant. Et dans le cas Pinneuf et Anjou, pourquoi qu'on a ciblé ça comme une priorité de tramway? C'est parce que c'est un des projets les plus faciles. Un gros achalandage, mais aussi, si on compare avec d'autres projets comme le tramway Côte-des-Neiges, c'est un bon projet, on n'a pas d'objection contre. Là. C'est juste que il y a des côtes, il y a beaucoup de contraintes techniques. Pinneuf et Anjou, il n'y a aucune pente, il n'y a pas de viaduc à construire. Dans tout le réseau ici de 35 stations, il y a un virage, puis il y a des endroits disponibles pour le garage. Puis vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'espace à redévelopper, en tout cas beaucoup plus que sur Côte-des-Neiges. Fait que tout ça pour dire qu'on arrive à une évaluation prudente d'environ 50 millions de kilomètres pour le tramway Pinneuf. Fait qu'ici, je pense que ça devrait être convaincant pour le ministère des Transports, mais on l'a représenté puis ils n'ont pas trop réagi. On est un peu surpris, mais le scénario métro ligne bleue et SRB, 2,3 milliards, le scénario tramway, 1,2. Ça fait qu'on sauve 1 milliard en investissement. Mais en fait, c'est encore mieux que ça, parce qu'il faut tenir compte des coûts d'opération. Ici, vous avez une étude qui a été faite, c'est par la ville de Hamilton qui regardait des options, là. Hamilton Study, mais ils ont regardé beaucoup de cas aux États-Unis, des coûts d'exploitation. Et encore là, vous allez voir à plusieurs reprises, évidemment, on dit qu'il y a plusieurs cas où est-ce que ça prend des tramways, mais il ne faut pas que ça soit dogmatique de dire que le tramway, ça dépend de l'achalandage. Et cette analyse-là le confirme. Il y a des cas où est-ce que vous allez avoir des achalandages trop faibles, ce qui fait que là, vous avez des tramways qui circulent à plus ou moins vite. Bien, finalement, ça peut coûter bien plus cher que des autobus. Et c'est le cas à Pittsburgh. Mais aussitôt que les achalandages augmentent de façon significative, là, on parle des économies de l'ordre de 1$, même jusqu'à 1,89 par passager en termes de coût d'exploitation. Fait que nous, on a pris une évaluation très prudente, même si, à mon avis, ça pourrait être plus élevé que ça. Si c'est une économie de 1$, ça fait 22 millions par année d'économies en termes d'exploitation par rapport aux autobus diesel qui seraient requis sur le SRB. Et une fois actualisé, c'est 470 millions, donc ça paye 50 % de l'investissement du tramway, juste la baisse des coûts d'opération. Puis c'est pas unique, on pourra revenir. Régent a regardé beaucoup le cas d'Ottawa. Il y a une grosse ligne de tramway qui est en construction à Ottawa. Il estime que dès la première année, les coûts d'exploitation vont baisser de 100 millions de dollars. Avec donc une rentabilité de système très, très rapidement. En d'autres mots, ils vont pouvoir payer toutes leurs lignes en quelque chose comme 10 ou 15 ans. La superficie, ici, c'est un peu une comparaison parce qu'évidemment, il y a des comment je pourrais dire, des pratiques en termes d'influence. Le métro a un effet quand même plus grand en termes de territoire, en termes de stimulation du développement. On ne nie pas ça. Sur ce tronçon-là, le métro aurait un meilleur impact, mais il faut comparer sur l'ensemble du réseau. Et là, si on regarde, si on tient compte de Pinneuf, pas juste de Jean Talon, on aurait une aire où il y aurait beaucoup plus de développement que dans le scénario promis actuellement. Régent même a travaillé très fort pour regarder concrètement les terrains disponibles tout autour de le long de Pinneuf et le long de Jean Talon. Et on arrive à des quantités. En fait, là, ce qu'on a pris, là, c'est juste fait un décompte de ce qui est évident en termes de terrains vacants, stationnements abandonnés ou commerces vraiment délabrés. Les superficies disponibles, on donne un équivalent pour vous donner une idée, là, c'est l'équivalent de 13 000 places de stationnement qui sont disponibles pour du développement. Si on développe ça, c'est juste un scénario pour donner une idée, parce qu'évidemment, un bon développement aurait du commercial puis du résidentiel. Mais si c'était juste du résidentiel tel que recommandé en densité par la CMM dans leur TOD, ça générait 8 800 logements pour des activités économiques de 2,2 milliards. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un grand, grand potentiel dans ce territoire-là. Étude de la Chambre de commerce, là, c'était pour le tramway Côte-des-Neiges, mais quand même, une étude très crédible estime que l'effet du développement sur les valeurs foncières augmente tellement que si on capte cette valeur-là par le biais des taxes ou autres, ça va rembourser environ 23 % des investissements du tramway Côte-des-Neiges dans ce cas-là. Mais le tramway Côte-des-Neiges, le potentiel qui était disponible autour était quand même pas mal moins que sur Jean Talon et Pinneuf. Donc, on pense qu'en fait, là, on pourrait dire que les retombées du projet vont probablement payer quelque chose comme 75 % des investissements. Ici, encore là, pour montrer le potentiel de Pinneuf, on l'a comparé à 10 gros projets relativement récents ou en construction, si on peut dire. Puis vous pouvez voir, Pinneuf serait le premier. Faites remarquer ici, on n'inclut pas Anjou parce que c'est difficile de comparer Anjou nécessairement avec le tramway. Fait qu'on continue ici juste pour donner une image, juste la ligne Pinneuf. Et c'est le projet qui coûterait le moins cher en Amérique du Nord par passager. Et le rival proche, c'est celui d'Ottawa qui est actuellement en construction. Ce qu'il faut quand même voir, faire attention dans ces comparaisons-là, c'est qu'il y a plusieurs cas de tramway qui, objectivement, ne sont pas justifiés, mais qui ont été justifiés pour des questions un peu d'image ou de prestige des centres-villes. Fait que vous avez ici à Cincinnati ou même Atlanta des tramways dont l'achalandage journalier est à 2600 ou 6000. Honnêtement, c'est pas justifiable, mais c'est ça qui a été fait pour toutes sortes de raisons. Mais tout ça pour dire quand même, on n'est pas du tout dans ce genre de projet-là avec ce qu'on propose. OK, ça, c'est la même chose. Conditions. J'essaye de résumer. Régent va prendre la relève dans 3 minutes avec le pont Champlain, parce que je pense que c'est important de parler du pont Champlain. Tout le monde est préoccupé par ce sujet-là. Mais ici, par rapport à, comme on a regardé beaucoup les données d'achalandage, la performance des différents tramways, on a examiné aussi la performance des trolleybus et tout ça. Fait que c'est un peu difficile de vous résumer ce qu'on en tire parce qu'il y a vraiment une grande, grande variété. Il faut faire attention. Des fois, il y a des projets qui coûtent très cher. En fait, je peux vous montrer. Dans la liste des tramways aussi, celui du bas à Portland, ça a l'air insensé comme projet, mais c'est parce qu'ils ont construit un très, très gros pont neuf juste pour le tramway. Fait que s'il n'y avait pas eu à construire ce pont-là, peut-être qu'il aurait été obligé de construire un pont pour une route. Fait que c'est pas évident non plus que même un projet comme ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il y a une justification locale. Mais dans le cas des trolleybus, ce qui est quand même assez clair, c'est que bien, je peux vous poser la question d'une autre façon, c'est qu'est-ce que je visais quand je me suis mis à tout regarder ça, c'est j'essayais de comprendre pourquoi qu'à l'échelle mondiale, il y a des centaines d'exemples de lignes de tramway, puis quelques dizaines de lignes de trolleybus. Pourtant, un trolleybus, c'est très simple, c'est vous mettez une ligne électrique, l'autobus est quatre fois plus efficace, fait que ça devrait être simple à développer, puis il devrait en avoir partout si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation de pétrole. Mais, par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que le trolleybus, il n'y a pas une meilleure capacité qu'un autobus articulé. Fait que ça pose déjà une contrainte. On veut avoir un système structurant, mais il est déjà limité en capacité. Puis, ce que j'ai fait aussi pour bien comprendre, est-ce que l'économie d'énergie qui est grande, est-ce que c'est suffisant pour payer l'infrastructure électrique? Et c'est non. Ici, j'ai pris des données françaises parce qu'on n'a pas de beaucoup de cas ou rien de significatif en Amérique du Nord. Mais, par exemple, j'ai juste simulé une ligne de trolleybus de 5 km. Le surcoût du trolleybus par rapport à un SRB serait de l'ordre de 29 millions. Ce qui paraît pas si pire, mais excepté que l'économie d'énergie qui est associée à ça, c'est environ 500 000 $ par année. Fait qu'on peut voir que l'économie d'énergie n'est pas toute seule suffisante pour justifier le projet de trolleybus. Mais donc, ça prend d'autres facteurs pour justifier le trolleybus, l'électrification par trolleybus. Et dans le cas du tramway, encore là, pourquoi qu'il y en a tant que ça? Par exemple, on a regardé le tramway de Waterloo qui est en construction. La prévision, c'est 42 millions par kilomètre, ce qui est très peu cher pour 28 000 usagers par jour. Ça semble un très bon projet, mais quand on regarde comme il faut, on n'a rien pour conclure comme il faut. Ce qui permet de vraiment conclure si le tramway est performant, c'est qu'il faut regarder vraiment les données d'achalandage, de l'heure maximum, une direction. Et si le tramway, si vous avez, comme dans le cas de Pinneuf, c'est évident, on remplace quatre autobus, une rame de tramway remplace quatre autobus, peut-être plus. Mais si vous avez d'autres cas où est-ce que le tramway permet de remplacer deux ou trois autobus, probablement que là, on est dans des systèmes qui se justifient clairement. Mais c'est un peu comme de dire l'intérêt économique puissant du tramway est lié au fait qu'on remplace beaucoup d'autobus. Malheureusement, il y a des syndicats qui ne sont pas contents, ça veut dire beaucoup de chauffeurs, mais les coûts des chauffeurs, c'est ça qui coûte très cher aussi. Fait que si on veut avoir un système très rentable, on doit viser à remplacer un grand nombre d'autobus. Et c'est tout pour moi. Je passe la parole à Régent pour parler de Champlain et de l'expérience internationale.
Merci. Donc, présentement, on a une problématique avec le pont Champlain. On voit bien comment que ça se passe présentement. On a la filée d'autobus qui est en file indienne. Puis on sait que présentement, il y a plus d'humains dans la ligne pour autobus que dans les trois voies qui rentrent le matin à Montréal. Donc, c'est le poids de la voie réservée présentement. C'est vraiment le plus important. Quand on a problème de circulation, tempête de neige, on supprime des fois la voie réservée. Mais si on veut faire entrer plus de gens, on devrait supprimer les trois voies pour automobile puis laisser les humains rentrer en autobus. Sauf que il y a quand même l'activité économique avec le camionnage et tout ça, ça ne fonctionnerait pas. On n'est pas dans le monde idéal. Bon, la voie réservée présentement, pendant les 3 heures de la pointe du matin, on retrouve 22 000 passagers dans la voie réservée. En circulation, en planification de la circulation, on dit clairement l'aire la plus achalandée représente 50 % de la pointe. Donc, on a fait nos bases de calcul avec 11 000 passagers. On n'a pas trouvé aucune information officielle nous disant qu'on a besoin d'un système pour 11 000 passagers, mais on a utilisé 50 % de la pointe, qui est très, très justifiable. Il y a présentement 430 autobus. Il y aura environ 250 autobus pendant l'heure la plus intense. Et les intervalles, c'est à 16 secondes par autobus. Et ça, c'est possible uniquement parce que ces autobus-là sont aux 16 secondes sur la partie centrale où il n'y a aucun arrêt. On ne peut pas gérer une ligne de SRB, BRT avec autant de gens que ça parce que dès qu'il y a un arrêt, ça, tout congestionne. Puis, lorsque ces autobus arrivent à Montréal, bon, certaines prennent des directions différentes et on peut gérer un tel achalandage. Et d'ailleurs, au terminus centre-ville, il y a une multitude de quais de débarquement de gens pour pouvoir accueillir tous ces gens-là qui arrivent au même moment. Le projet, la capacité visée est de par l'AMT. Initialement, il y avait circulé une information qu'il voulait avoir un système de SLR pour 32 000 personnes à l'heure, mais semble-t-il, il y avait peut-être une erreur dans la fiche descriptive. Là, maintenant, on parle de 32 000 passagers pour l'heure de pointe, donc 50 % de la pointe. On a besoin d'un système avec une capacité de 16 000 passagers à l'heure. Donc, ça, c'est le scénario de développement, parce qu'on prévoit avoir de la croissance, parce que les gens réclament du transport collectif sur la rive sud. La problématique, c'est que si on veut faire augmenter à 16 000 passagers qui rentrent à chaque matin sur la voie réservée, ça va nous prendre 640 autobus. Et les gens à la ville de Montréal ont dit « Stop, on n'en veut plus, là. Il y a suffisamment d'autobus qui rentrent à Montréal. On n'en veut pas plus. On en veut moins. Trouvez-nous un système. » Et c'est pour ça que l'AMT a proposé un système sur rail. Puis, d'autant plus que si on choisit l'autobus, le désavantage, c'est que la CMM veut avoir des TOD. Et lorsqu'on fait des TOD avec des autobus, ça fait un TOD beaucoup moins performant. On ne peut pas faire la même densité d'habitation auprès d'une station de TOD par autobus versus un TOD qui est alimenté par un système sur rail. Excusez-moi. Puis, c'est ça. L'AMT nous a parlé du SLR. On sait qu'il y a plusieurs types de le SLR, c'est un système léger sur rail. Le système léger sur rail a une panoplie de matériel. Jusqu'à maintenant, on nous a présenté un système sur pilotis, similaire à celui qu'on retrouve à Vancouver. Ça a l'avantage de pouvoir fournir une grande capacité, puis de ne pas interférer avec la circulation. Mais on sait que c'est un système qui est très dispendieux. Donc, le système proposé aujourd'hui par le SLA, par l'AMT avec les nouveaux achalandages, on parle de 16 000 passages, puis ce serait des véhicules avec 600 passagers avec des intervalles de 2 minutes 10 secondes. Moi, de mon côté, avec Luc, on a travaillé sur un scénario de tram-train. Basé sur le véhicule qui est en construction à Ottawa, des trains de 48 mètres. Et on a calculé qu'à 6 personnes par mètre carré sur les espaces debout, on pouvait atteindre 468 passagers par rame. Et pour atteindre 15 000 passagers à l'heure, bon, ça nous prendrait une rame 1 minute 52 secondes, ce qui est très, très serré. Encore, je reprends l'exemple d'Ottawa, le STEM prévoit d'offrir un achalandage allant jusqu'à 1 minute 45 secondes. C'est vrai qu'ils ont un système, une partie qui est en souterrain, ce qui aiderait sûrement, mais nous, on a une grande partie qui est libre d'obstacles du terminus Chevrier jusqu'à l'île Saint... Pointe-Saint-Charles. Ouais, jusqu'à Pointe-Saint-Charles, merci. OK, donc les viaducs, on sait que c'est coûteux. Le système de la, qui était proposé initialement par l'AMT à Vancouver, le coût est environ de 150 millions de dollars le kilomètre. Il y a un désavantage, c'est qu'il devrait y avoir très peu de stations sur la rive sud. On parle de, on va aller un peu plus loin, ici. Bon, sur la rive sud, on parle de 3 stations pour le SLR, tandis que nous, dans un projet qu'on a fait pour la rive sud, on parle de 14 stations de tram-train. Donc, ça leur aurait l'avantage de requalifier le boulevard Taschereau, où on cherche un projet depuis bien longtemps, pour être un catalyseur de développement. Il y a plein de stationnements qui sont inutilisés. Donc, il y a une capacité là d'accueillir des gens en voiture, mais idéalement, le réseau de transport de Longueuil peut rabattre ses autobus sur chacune de ces stations-là. Et il y a aussi une grande population qui vit en bordure de Taschereau. Et également, on a poussé une pointe jusque près du quartier 10-30, ici. Et ensuite, on suit l'autoroute 30 jusqu'à Grande Allée. C'est notre concept. Donc, je parlais tantôt, 150 millions de kilomètres pour le SLR, 60 pour le tram-train. Et le tram-train est plus dispendieux que le tramway au kilomètre. Et surtout que ça prend une grande capacité parce qu'il y a énormément de gens en très peu de temps. Donc, ça va prendre beaucoup de véhicules. Puis, on calcule que le SLR tel que proposé, il était près du 2 milliards de dollars versus 1,2 milliard pour le tram-train à 60 millions de dollars le kilomètre. Donc, ici, on a fait les aires d'influence de chacune des stations, 750 mètres autour de chacune des stations. Puis, j'ai déjà eu des discussions avec des gens à l'ANT, puis ils me disaient, malheureusement, le tram-train n'a pas la capacité voulue. La capacité voulue est de 16 000 maintenant. Moi, je dis qu'on peut pousser un système jusqu'à 15 000 personnes par heure par direction. Évidemment, il faut tasser les gens, beaucoup. Mais idéalement, il faudrait offrir un système qui serait de l'ordre de 10 000, 12 000 personnes à l'heure, en ayant moins de rames, une fréquence plus basse, et maintenir une voie multi-utilisateur sur le pont Champlain. Une voie multi-utilisateur, ça veut dire que dès qu'il y a deux personnes et plus qui sont dans une voie, ils peuvent utiliser la voie. Donc, autant les autobus qui vont partir de Saint-Jean sur Richelieu pourraient prendre une voie multi-usagée comme ça. Les autobus scolaires... En fait, la problématique avec la voie réservée du pont Champlain, il faut avoir un chauffeur certifié qui peut utiliser la voie présentement. Mais partout ailleurs en Amérique du Nord, on retrouve des voies multi-usagées. Ils en ont inauguré une à Québec il y a quelques semaines. Une voie multi-usagée, deux personnes et plus. On a des voies réservées multi-usagées également dans la région métropolitaine. Je vais de temps à autre travailler avec Luc à Laval et on voit des voies réservées. C'est deux personnes et plus. En fait, il faut juste garder à l'esprit que 4 personnes dans une voiture, c'est probablement plus efficace que la majorité des autobus qui traversent sur le pont Champlain présentement. Là. Parce que souvent, les autobus sont à 50 %. Si on est 4 personnes dans une voiture, c'est plus efficace. Donc, il faut avoir une voie de multi-usagers sur le futur pont Champlain. Et comme ça, tout le monde sera satisfait, autant les gens de Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, au niveau de... On parlait de chaînons manquants. La ville de Lyon, en 2000, n'avait qu'un... Il y avait des autobus, des trolleybus, funiculaires et un réseau de métro avec 38 stations. En 2001, a été inaugurée les deux premières lignes de tramway, avec 39 stations de tramway sur 18 kilomètres. Le réseau de métro, je n'ai pas calculé le nombre de kilomètres, c'est un peu complexe, mais aujourd'hui, en 2014, on a rajouté 2 stations de métro seulement et on a rajouté plus de 40 stations de tramway. Donc, la ville a vu, on a quelque chose d'intermédiaire ici qui est à développer, et c'est le tramway. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, oui, le métro est important, mais on fait des petits prolongements pour mailler le réseau pour que le système soit beaucoup plus efficace. C'est fini les grands projets de métro pour Lyon. On retrouve d'autres véhicules, tels que le trolleybus. Il y a 3 lignes de trolleybus à très haute fréquentation, dont une qui va jusqu'à 55 000 passagers par jour, ce qui est énorme. Mais il y a des problèmes de congestion et de retard. Puis là, maintenant, on envisage de peut-être la convertir en tramway. Il y a eu un débat politique il n'y a pas si longtemps à ce sujet-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il faut regarder les divers modes. Il y a le tramway, il y a le trolleybus, il y a l'autobus également, les SRB. Récemment, la mairesse de Strasbourg était ici. Ils développent énormément leur tramway, mais ils ont également développé une ligne de SRB dans le nord de la ville là, qui est un succès, semble-t-il. Voici le trolleybus que l'on... de Lyon, qui est un modèle très, très moderne, qui est stylisé, qui ressemble quand même un peu au tramway. Conclusion, on a un consensus au Québec. Il faut développer le transport collectif, il faut électrifier les transports. On a beaucoup travaillé sur l'automobile électrique avec les bornes de recharge, mais dans le transport collectif, oui, on a le métro. Mais sinon, au niveau de développement, on n'a rien vu jusqu'à maintenant. Il faut réduire les gaz à effet de serre, puis on sait, le seul endroit où les gaz à effet de serre augmentent, c'est dans le transport. Il faut densifier. Lorsqu'on fait des TOD, l'intérêt, c'est que les gens qui utilisent le transport collectif pour se rendre au travail, s'ils sont dans un tonne puis qu'il y a un système de transport intéressant, ils vont l'utiliser pas seulement pour aller travailler, ils vont l'utiliser au quotidien, le soir pour aller au cinéma, pour faire des sorties. Puis il faut également stimuler le développement économique. Puis pour nous, créer des tonnes, on stimule le développement économique et on crée des emplois. Dernière chose, misant tout sur le métro puis l'autobus, on a créé un déséquilibre au Québec. Si on met toutes nos ressources pour développer le métro sur quelques kilomètres, on n'a plus d'argent pour rien faire. Ou si on met tout sur le système de train de banlieue, on a un système qui va être inauguré bientôt à 700 millions de dollars pour déplacer 11 000 passagers par jour. Le coût par passager est assez important. Parce qu'on met tout l'argent dans un seul système, on oublie peut-être trop les autres. Puis, il y a des capacités intermédiaires intéressantes pour des SRB. Il y a eu une inauguration récemment à Gatineau. À Québec, le métrobus est un succès. À Longueuil, il y a un système de SRB. Je ne connais pas sa performance. Puis, il y a beaucoup de villes canadiennes qui ont embarqué dans les dans des projets de tramway et de SRB. Et certains me diront, on n'a pas d'argent pour ça, si on l'entend souvent. Le gouvernement fédéral a financé, a promis à la ville d'Edmonton 250 millions de dollars pour son train léger qui présentement est en appel d'offres. Le fédéral a également donné 260 millions de dollars à Waterloo. Et à Ottawa, ils ont offert 600 millions de dollars. À Toronto, 171 millions de dollars financés par le fédéral. Ici, on a mis notre argent. En fait, on n'a pas demandé d'argent à Ottawa pour financer le transport collectif. Il y a des fonds dédiés à ça. Il faut juste savoir, est-ce qu'on va utiliser ces fonds-là pour prolonger l'autoroute 19 ou bien faire un système de transport plus performant?
Enfin, t'es sérieux.
Je vous remercie.
Alors, merci. Merci beaucoup à tous les deux qui ont bien travaillé pour préparer cette présentation de ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se précipite vers le micro. Avant d'embarquer dans les questions, moi, j'avais juste une petite question de détail sur le Champlain. La partie sur la rive sud a été documentée, mais quand on rentre à Montréal...
Bon, ouais, bonne idée. Ouais, la voici. Bon, qu'est-ce qu'on a prévu sur la partie Montréal? C'est de suivre l'autoroute Bonaventure, puis jusqu'à la cité du multimédia, ou Griffintown, si vous préférez. Et à partir de là, de prendre le nouveau boulevard Bonaventure qui est présentement qu'on doit abaisser, cette section d'autoroute-là. Et on a prévu de mettre deux stations terminales, une à Square Victoria, puis l'autre à Ville-Marie, à la place Ville-Marie. Puis possiblement que seulement une rame sur deux devrait aller jusqu'à la place Ville-Marie. Il est question de gérer tout cet achalandage-là. Et on fait déjà un système du genre avec le métro qui va, une rame sur deux va à Laval. C'est un système connu pour mieux répartir l'achalandage.
Merci. Alors, la première question.
Oui, bonjour. Pierre Brisset, de Chien de garde. En aménagement urbain. Parce que je ne suis pas un groupe, hein, je suis un chien. Écoutez, la question du tram-train, il y a beaucoup de... Je trouve votre approche vraiment appropriée. Je crois que Montréal peut avoir plus de points de desserte. Par exemple, au pont Champlain, ça peut se diviser. Une partie peut aller vers la station Lionel-Groulx. Parce qu'il faut comprendre que Lionel-Groulx permet un raccord au métro dans les quatre directions, ailleurs que le centre-ville. En tout cas, ça, c'est une idée, mais juste revenir à la définition de tram-train. Selon certains experts, un tram-train, c'est un équipement qui roule sur des rails de chemin de fer et sur les rues de ville. Tandis que votre exemple de tram-train, c'est plus que le commun des mortels comprend, c'est plusieurs tramways collés ensemble pour faire plus un train. Un tram-train, définition. Alors, peut-être il faudrait éclaircir cette définition-là parmi vos experts. Et puis, pour P9, question que j'avais toujours, deux petites questions, sous-questions, c'est comment ça se fait que Laval axe sur Papineau, l'axe 19, et puis Montréal axe sur P9? Les deux ne peuvent pas s'aligner sur la même ligne de mettre un réseau de transport nord-sud qui part de la couronne nord jusqu'au centre-ville de Montréal. Mais pour revenir au tramway sur les rues de ville de Montréal, c'est quoi l'emprise? On ne parle jamais d'emprise. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'une emprise normalement de tramway avec les stations, c'est normalement 40 pieds. Et 40 pieds, quand on parle de P9, qui a 80 pieds entre les, excuse que je vais en parler, pieds et pouces, bon, c'est pour ceux qui veulent traduire en métrique, ils le traduiront, c'est qu'il y a 80 pieds entre les chaînes de rue. Alors, comment rentrer une emprise de 40 pieds? C'est comme rentrer un pied de pointure 10 dans un soulier de pointure 6. Ça, c'est deux défis, je crois, qu'il faut qu'ils soient répondus.
Trois questions.
Oui, trois questions, voilà.
Disons que vous avez raison, pour P9, il y a comme un enjeu d'insertion. Puis on a regardé, quand même intéressant, c'est que les tramways, vous pouvez avoir trois largeurs, puis il y en a qui sont pas mal plus étroits. Mais excepté que là, la demande est tellement grande que ça justifie un tramway quand même d'assez grande capacité. Mais malgré tout, il faut toujours comparer, parce que si vous avez un service rapide de bus, il faut donner une chance aux chauffeurs quand les autobus se rencontrent. Fait que un double circuit d'autobus va prendre plus large que deux tramways qui se rencontrent. Fait que c'est sûr qu'on est, on l'a calculé, on est peut-être dans des économies de l'ordre de 3 pieds. Ce n'est pas des grosses différences, mais ça fait ça de prix qui est déjà mieux que le SRB.
Mais c'est juste que le SRB peut être à sens unique le matin, il prend la voie réservée, puis le soir, il revient par les rues ordinaires.
Pas à 70 000 passagers, imaginez.
Non, je parle dans l'heure de pointe, c'est 70 000 vers le centre-ville, mais c'est pas 70 000.
Non, mais même à ça, il faut que les autobus reviennent vite. Quand on dit qu'il y en a 100 qui sont besoin à l'heure de pointe, dans une direction, ces 100 autobus-là, il faut qu'il y ait une bonne partie qui soit revenue rapidement. Ils ont besoin de la voie réservée pour revenir autant que dans la pointe, parce qu'autrement, ils ne réussiront pas à revenir à temps pour donner la deuxième heure.
Merci pour ça. Merci.
La définition, oui?
Oui, pour la largeur de l'emprise, c'est vrai que le système qui a été planifié, pour le SRB, c'est, il y a une alternance des quais selon l'endroit où est-ce qu'on est au carrefour. Donc, il y a une économie d'espace avec le système de SRB qui, c'est très astucieux, c'est un système qui économise l'espace. Une façon d'économiser de l'espace avec le tramway, c'est de faire fonctionner en rive. Sauf que ça implique de nombreuses expropriations. Tous ceux qui ont des entrées de charretières, donc des entrées de voitures, devraient peut-être être expropriés. Il faudrait exproprier leur stationnement. Donc, changement de majeur est coûteux. Il faut probablement rajouter un 50 millions de dollars à ce calcul-là, à mes calculs que j'ai utilisés. Ensuite de ça, pour le tram-train, j'ai utilisé la définition de Ottawa. Ottawa, leur véhicule a une capacité de rouler à 100 km/h et c'est la base que j'ai utilisée pour le tram-train. En France, on dit que c'est un système qui va à la fois sur le réseau national. Mais nous, on n'a pas. Nos véhicules urbains n'iront pas sur des réseaux nationaux, mais c'est en termes de vitesse et aussi le véhicule est plus costaud, là. Pour pouvoir rouler à 100 km/h, il y a des normes de sécurité plus élevées qu'à une limite de 70 km/h.
Merci. Oui?
Bonjour, Jules Gagné. Ben, Luc, c'est la première fois que tu me convaincs pour le tramway. Ça fait longtemps que je suis sceptique pour le tramway à Montréal. Il n'y a encore personne qui avait réussi à me montrer quelque chose qui était vraiment convaincant. Et là, je suis convaincu. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, je suis convaincu. Je suis tellement convaincu que je me pose une question que je vous pose. Il me semble que sur P9, ça fait longtemps qu'on travaille sur P9 avec différents scénarios assez coûteux qu'on n'a pas encore réussi à obtenir. La ligne bleue du métro, ça fait longtemps qu'on parle de ça en maudit aussi avec différentes sortes de planifications. Comment ça se fait qu'on n'a pas finalement opté pour des tramways sur ces deux endroits-là?
Je peux peut-être, presque de façon humoristique, avec un peu de sérieux, vous dire que depuis 6 mois, ce qu'on présente ici, on l'a présenté partout, mais l'AMT nous dit, ben non, il faut que vous parliez à la Ville de Montréal. On va voir la Ville de Montréal. Ben non, il faut que ce soit la STM qui soit d'accord. On parle à la STM, on nous dit, ben peut-être que c'est mieux l'AMT. L'AMT nous retourne, nous dit, ben peut-être que c'est mieux le ministère des Transports. Vous n'avez pas idée comment est-ce qu'on s'est fait promener partout, puis il n'y a jamais personne qui dit « c'est mon problème et je le prends ».
Puis du temps, Florence, j'ai un cas de nous à l'AMT.
Non, mais je vous assure que partout où on est allé, on a eu des accueils très chaleureux. Puis même, on a présenté ça aussi à la Chambre de commerce. Puis les gens, tout le monde est intéressé, mais tout le monde dit « ben là, la Chambre de commerce disait « ben là, il faudrait convaincre le maire ». Bon, ben je ne sais plus comment...
Bon, il faut
comment
faire...
procéder, mais faut si faire vous avez bruit, aussi ouais. des idées pour nous aider, okay. ça serait bon.
Mais comme j'ai été prise à partie, je vais quand même répondre. Pour ceux qui ont de la mémoire, il faut se rappeler que dans les premiers plans stratégiques, hein, le plan stratégique 97-2007, il n'y avait aucun prolongement de métro recommandé. Puis il y avait une stratégie de développement de systèmes de voies réservées par autobus et la relance des trains de banlieue. C'était ça le moton. Les tramways, à l'époque, n'avaient pas été regardés. Il y avait d'autres chats à fouetter, là. Puis ça n'avait pas été regardé. Et c'est pour ça que, avec l'évolution qui se fait, puis avec une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du lien entre les déplacements, puis l'offre de services et puis l'analyse coût-bénéfice, il faut qu'on regarde des choses comme ça. Sur Pineuf, là, c'est...
Est-ce qu'il c'est est trop tard? Deuxième question, est-ce qu'il est trop tard?
Pas sur Pineuf, sur le prolongement de métro à Anjou, c'est des choses qui sont très, très faciles à regarder. Sur Pineuf...
Il est trop tard? Non?
Il n'est pas trop tard tant que ce n'est pas construit.
Bon, alors...
C'est jamais trop tard tant qu'il n'a pas... Moi, j'ai un...
faut pas le retarder encore, il faut le faire. Hein.
Un vieux sage qui était ministre de l'Éducation quand j'étais en train de construire à l'UQAM qui disait « Tant que la pelle n'est pas dans le sol, on peut changer d'idée. » Mais là, le problème, c'est qu'on change trop souvent d'idée puis là, on ne fait plus rien. Bon, j'arrête de parler. Question suivante.
Un point quand même juste important, c'est que les délais de construction, c'est sûr qu'il y a toujours le processus politique, mais une fois qu'on est décidé, en Europe, il y a beaucoup de lignes de tramway qui ont été construites en 2 ou 3 ans. Alors que si on maintient le scénario métro-ligne bleue, peut-être qu'on va l'avoir, mais on va l'avoir dans 12 ans, je pense. Même en 12 ans, là, je suis assez optimiste. Fait que c'est pas comparable quand on regarde les délais.
Juste un petit commentaire sur les autobus électriques. Vous êtes un peu en retard, par exemple.
Une chose aussi, donc, tantôt j'ai parlé du financement fédéral qui était là, puis qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on n'a pas d'argent pour ça. Mais pourtant, jamais on nous a dit qu'il y avait 33% de possibilités. Il y avait 33% qui pouvaient être financés par le fédéral. Et si le projet est en PPP, donne un bonus, ça peut aller jusqu'à 40% du projet. Il faut le demander, mais là, il n'y a pas personne qui a dit « Faisons payer 40% du tramway par le fédéral. » On entendait tout le temps « Montréal n'a pas d'argent pour ça. » Ouais. Mais il ne veut pas prendre, il ne veut pas demander de l'argent pour ça. C'est pas la même chose.
Merci.
Natacha Alexandrov, de Pointe-Saint-Charles. Moi, je peux dire en passant qu'il y a toujours encore des gens qui s'en mettent plein les poches quand il y a des projets qui arrivent. Et ça me fait un peu de la peine parce que cet argent-là pourrait être mieux employé. Je pense que ça prend, excusez-moi l'expression, des couilles pour partir des projets qui coûtent cher. Il faut qu'on fasse un choix. On a besoin de ça, mais il faut qu'on le fasse. Comment on va le faire? Ça peut se discuter entre personnes qui s'y connaissent puis le présenter à la population. Mais il faut que ça soit, il faut que ça se fasse. On n'a pas le choix. Sinon, on se retrouve avec des trucs comme le pont Champlain puis on se fait coincer, prendre à la gorge. Moi, j'aimerais savoir si c'était possible. On dit que les que les trolleybus, c'est pas intéressant, mais je pense que sur les lignes où il y a de l'achalandage normal, on pourrait les électrifier. Puis le trolleybus, bon, il faut l'électrifier, mais en dessous, il n'y a pas de rail à faire, faut pas défaire la rue. C'est quand même beaucoup plus économique pour des petites lignes. J'ai aussi une question, je vous remercie de l'avoir posée tout à l'heure. Je m'inquiétais un peu de vous voir arriver sur Pointe-Saint-Charles, parce que par où vous passez, c'est Pointe-Saint-Charles. Vous dites que vous allez suivre notre fameux futur boulevard urbain. Il va y avoir des feux rouges sur le boulevard urbain. Comptez sur nous, il va y avoir des feux rouges. Si on pense qu'on va juste monter l'autoroute, là, oubliez ça. Ensuite, nous, à Pointe-Saint-Charles, on veut avoir accès au fleuve. C'est le seul endroit à Montréal où on n'a pas accès au fleuve. Si vous êtes au ras des pâquerettes, ça va être un petit problème. Et c'est une des raisons pour laquelle l'AMT se met sur pilotis. En tout cas, une autre question, pourquoi est-ce que vous ne passez pas par Victoria? Vous êtes déjà rendu sur Taschereau, là, c'est pas compliqué, hein? Victoria, il est extrêmement solide, il peut être aménagé. On enlèverait tout simplement les voitures. Victoria, c'est les voitures sur Victoria, c'est une voie du pont Champlain. Alors nous, ça nous arrangerait parce que on a des bouchons abominables dans tous les sens, parce que tout le monde passe par Victoria pour rentrer sur la rive sud, surtout en ce moment. Alors, si on dédiait carrément le pont Victoria au tram-train, bien, on n'aurait plus de problème de circulation et ça marcherait beaucoup plus pour tout le monde.
Deux questions.
Oui, pour le pont Victoria, c'est probablement intéressant. J'ai vu des gens qui avaient travaillé sur le sujet. Ça semble... vraiment pas dénué de tout sens. C'est vraiment intéressant. Nous, on s'est concentrés sur les projets actuels. Les projets actuels dans la région métropolitaine, c'est le pont Champlain, puis on sait qu'il y aura deux voies dédiées au transport collectif. Donc, on a sauté dans ce projet-là en disant, bon, ben, faisons un bon projet tant qu'à en faire un. Ensuite, pour Pinneuf, il y a déjà un projet, il y a déjà 300 millions de dollars sur la table. Et pour la ligne bleue, il y a déjà, on sait qu'il y a des études présentement au coût de 30 millions de dollars. Il faudra juste appeler les consultants, dire, regardez, laissez faire le métro, puis prenez cet argent-là, puis développez-nous un réseau de tramway. Donc, on s'est attardé sur les projets en cours. Ils n'ont pas sur d'autres projets. C'est plus facile d'essayer d'intervenir sur les projets en cours que d'essayer d'en créer à partir de zéro.
Merci.
Merci. Oui.
Bonsoir. Paul Bourque de Palico. Merci, messieurs. Alors, la dame avant moi a parlé d'un point que j'ai voulu couvrir. Car vous savez que depuis 2008, je propose plusieurs de vos points que vous énumérez ce soir. Ceux qui s'intéressent, allez sur le site de Pabeco, pabeco.com. Vous verrez les présentations. Alors moi, pour résoudre les problèmes de décision, moi je proposerais qu'il y ait une réunion publique, ouverte de tous les intervenants, une discussion pour voir le plan d'ensemble de réseau pour le transport en commun à Montréal, qui inclurait aussi les plans de ce qui est proposé par l'Ouest. Il propose un SLR dans l'ouest de la région de Montréal. Et aussi, on pourrait regarder aussi, en même temps, le plan pour Notre-Dame, la boucle du centre-ville et, éventuellement, comme on dit, Victoria, traverser une deuxième rame de tram-train sur Victoria en attendant Champlain. Alors, aussi, les 600 millions, je pense qu'au BAP, on pourrait dire d'utiliser les 600 millions pour investir dans le projet de Pinneuf. Et je crois que... Félicitations, merci. On continue à pousser dans cette direction-là. Merci, messieurs.
Merci. Merci. Oui.
Oui, Jacques Landry, Transport 2000. J'avais plusieurs commentaires, mais je vais me limiter à une question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les décisions ne s'en vont pas de ce sens-là? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de projet de ne pas aller du côté du métro, d'aller, par exemple, l'autoroute 19, c'était dans les plans du PQ et dans les plans des libéraux qu'on n'a pas de mairesse comme à Strasbourg. Selon vous, parce que vous disiez à un moment donné, on voit un consensus, moi je ne le vois pas. Je vois un consensus où le mode le plus efficace malgré tout de transport, c'est l'automobile. C'est ça la réalité que je vois. Où est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas des décisions comme ça?
Là, il aurait fallu que je fasse ma thèse de sciences politiques sur un autre sujet, là, mais c'est la gouvernance. Je pense quand même Transport 2000 contribue beaucoup en mettant l'accent sur les enjeux de gouvernance. Puis il y a des problèmes. Il y a beaucoup de monde qui ont pu à Québec qui ont plus confiance à l'ANT. Il y a du monde qui à Montréal non plus. Honnêtement, là, c'est bien, bien difficile de résumer ça parce qu'il y a beaucoup trop d'intervenants, mais il y a quand même des choses qui s'en viennent qui sont peut-être réconfortantes, si on peut dire, parce que c'est des options. C'est comme Montréal veut avoir un nouveau plan de transport et ça illustre très clairement la situation actuelle parce que quand on présente le cas du tramway à la ville de Montréal, ben là, ils nous disent, ben c'est vrai que c'est intéressant, mais là, c'est pas dans notre plan de transport. Fait que là, dans ce cas-là, moi, je leur dis, ben dans ce cas-là, le tramway Côte des Neiges est dans votre plan de transport. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Ah, non plus. Fait que on sait plus où on est. On est dans des zones grises tout le temps, là. Puis il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un vrai débat. Puis peut-être que M. Bouc disait, il va falloir qu'il y ait quelque part une remise en question un peu plus profonde. Mais honnêtement, je c'est pas moi qui va trouver la solution miraculeuse.
Mais moi, j'étais surpris par le commentaire du ministre fédéral des infrastructures, Denis Lebel, lorsqu'il répondait à l'ancien ministre des Transports qui réclamait de se faire payer le SLA. Il disait, on vous a donné l'argent, mais votre choix, ça a été d'investir sur l'autoroute 175 jusqu'au lac Saint-Jean, l'autre qui va jusqu'à Cabaneau, jusqu'à... C'était des choix importants à faire parce qu'il y avait de nombreux morts sur ces routes-là. Là, il faut savoir, là, le fédéral a annoncé de nouvelles sommes, de nouveaux milliards de dollars pour le Québec en investissement en infrastructure. On va le mettre sur quoi? L'argent est là, là. Il faut juste le demander. 33% est disponible. Moi, j'aimerais ça qu'on me finance pour payer, m'acheter une voiture à 33%. Qu'on me donne 33%, j'apprendrais, là, je dirais, wow! Là, on nous l'offre. Il faut juste faire des bons choix.
Avant de passer la parole au suivant, je vais tenter une réponse à la question qui est posée. On est mûr pour avoir mais là, ça va faire beaucoup, beaucoup de mécontents, ce que je vais dire. On est mûr pour avoir un plan intégré à l'échelle de la région métropolitaine qui planifie en fonction d'objectifs visés, là, de transfert modal, qui planifie un réseau multimodal sur l'ensemble du territoire où on privilégie le transfert de l'auto solo vers autre chose. Et cette autre chose peut être l'auto à quatre personnes, comme peut être à certains endroits des autobus en voie réservée ou des tramways. L'objectif étant des objectifs de déplacement et de transfert modal. Mais pour le faire, compte tenu d'un grand nombre d'intervenants, de la politisation de toutes les décisions, et de l'incapacité, parce qu'on s'annule en termes de décision, ben, ça prend de développer ce plan, de le rendre visible, de rendre visible le financement, d'embarquer la population et puis de l'imposer. Mais qui va l'imposer? Qui va l'imposer? Ou bien c'est par la séduction? Ou bien c'est par l'imposition, puis c'est l'imposition, on est rendu là. Mais je vais arrêter de continuer à répondre à la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, il y a un moment là qui s'en vient, qui va être très très douloureux, puis pour lequel on n'a pas soigneusement planifié ce qui s'en vient. C'est tous les travaux qui démarrent. Alors, ce qu'on entend, on entend des choses comme chaque individu essaie de trouver une solution par manque de planification d'ensemble sur comment on va déplacer les biens et les personnes et les marchandises. J'entendais une banque, j'étais dans une réunion dans un banquet, puis la personne me disait, je suis en train de déplacer mon monde sur la rive sud. Chacun va prendre des décisions individuelles. On va manquer le bateau, puis on va souffrir. Là. Bon, ceci étant dit, question suivante.
Bonjour, je suis Timothée Millet, je suis stagiaire au MTQ et je travaille justement sur ce que vous dites, Madame Junka Adeno, le plan métropolitain de mobilité durable et le service où je suis essaye de régler ça. Mais je suis venu ici pour poser une question plus par rapport au projet de tramway. Je suis étudiant ici à la maîtrise, je fais un mémoire sur l'optimisation des coûts d'investissement et d'opération. Sur une méthodologie précisément et que j'essaie d'appliquer sur un projet qui ne vit plus, c'est le projet de tramway de la ville de Montréal. Et je me demandais si vous, pour vos projets sur P9 et sur le pont Champlain, vous voyez à des solutions d'optimisation comme l'ont pu faire par exemple Portland ou Besançon, qui visent à réduire par l'investissement ou par l'exploitation sur le long terme ces coûts-là. Si par exemple Besançon, ça peut être sur réduire le nombre de sous-stations de courant faible, ou Portland, ça peut être ne pas faire les déviations de réseaux souterrains, des solutions comme ça. Est-ce que qui montrerait le projet de tramway moins cher encore et qui se rapprochait du SRB, donc plus compétitif?
Non.
Et si oui, lesquels?
Moi, j'ai travaillé sur le tramway Côte des Neiges centre-ville, et c'était il y avait une optique mur à mur, là. On refait le corridor, il va y avoir de l'argent pour... C'est pas seulement un projet de transport, c'est un projet d'urbanisme important. On a atteint... Puis il y avait aussi des surcoûts, parce qu'il y avait un problème avec une immense dalle au centre-ville, sur la rue René-Lévesque, un terrain exproprié faramineux pour le garage. Il y avait vraiment des coûts très, très élevés. Moi, j'ai basé mes coûts sur le tramway de Waterloo, qui est à 42 millions de dollars le kilomètre. Puis pourquoi nous, on ne peut pas atteindre un coût si bas de 42 millions de kilomètres? Parce qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'à Waterloo. À Waterloo, ils prévoient avoir quelque chose comme 26 000, 28 000 personnes par jour. Donc, ça prend moins de véhicules, mais nous, ça va. C'est un gros projet, là, P9. Il y en a qui mettent en doute les chiffres de l'AMT d'atteindre 70 000 passagers par jour. Moi aussi. Mais avec un tramway, ça serait possible d'atteindre ce chiffre-là parce qu'il y a un effet catalyseur avec le tramway. Ça attire le développement, ça l'incite à utiliser le service. À cause de ça, ça prend plus de véhicules. Puis le véhicule coûte environ 4 millions de dollars. Puis si on inclut des pièces de rechange puis des outils, on monte à 6 millions de dollars le véhicule, comme à Waterloo. C'est vraiment très, très dispendieux, ces véhicules-là. Je pense qu'on ne peut pas faire en bas de 50 millions de kilomètres pour cet endroit-là. J'en suis convaincu.
D'accord. Merci.
Merci. Dernière question, à moins que d'autres personnes fassent un signe.
C'est plutôt un commentaire. Présentement, en Chine, dans la ville de Canton, il y a un BRT qui utilise 350 autobus à l'heure, ce qui donne en moyenne environ un autobus à tous les 12 secondes, ce qui est très, très... c'est la plus grande capacité au monde présentement. Mais la façon qu'utilise le BRT, c'est qu'ils n'ont deux voies réservées au lieu d'une par direction. C'est-à-dire que quand l'autobus arrive en quai, l'autre autobus dépasse l'autobus par la voie de dépassement et vient se mettre en avant l'autre autobus. Donc, finalement, le quai central a 850 pieds de long. Pour comparer, le quai de métro de Montréal, c'est 500 pieds. Donc, si on voit une comparaison, oui, c'est possible d'avoir une capacité élevée en BRT, mais ça prend une largeur supérieure pour un tramway. Puis, deuxième point, quelqu'un avait proposé, dit pourquoi qu'à Laval, on prend Papineau au lieu de Pinneuf? Parce que la rue Pinneuf, elle aboutit dans un quartier résidentiel qui s'appelle Val-des-Brises, au nord de la 440, et tandis que l'axe Papineau va jusqu'à Sainte-Anne-des-Plaines et même jusqu'à Saint-Calix, Saint-Sophie-des-Laurentides. Donc, puis du côté de Montréal, du côté de la Rive-Sud, l'axe Papineau est enligné vers le pont Jean-Cartier. Et donc, on peut aller plus loin vers la Rive-Sud. Puis, par contre, du côté de Papineau à Montréal, la largeur est beaucoup moins large que du côté Pinneuf. On parle de 4 voies au lieu de 7 voies. Donc, c'est pour ça que les gens de Montréal aiment mieux Pinneuf, puis les gens de Laval aiment mieux Papineau. Mais par contre, le vrai axe principal nord-sud à Laval, c'est le boulevard des Laurentides et l'autoroute des Laurentides, de loin, suivi après par le boulevard Curie-Labelle. L'autoroute 13, l'autoroute 19 sont plus des voies d'autoroute de prolongement de banlieue, tout simplement.
Merci.
Merci. C'est intéressant, mais je n'ai quand même pas oublié que si on pourrait développer effectivement une plus grande capacité sur le boulevard des Laurentides, mais ça amène direct à la ligne orange, puis on a le même problème. Ça fait quand même...
Alors, dernière question ou commentaire?
Bonjour. Alors, mon nom est Richard Saint-Onge. Je suis de Longueuil. Je suis membre aussi de l'organisme Transport 2000 pour l'infrastructure. Maintenant, moi, j'ai une petite approche un petit peu différente. Je vous entends parler de tramway, tout ça. On n'a pas parlé du monorail. Le monorail qui pourrait coûter beaucoup moins cher en infrastructure, car il demande beaucoup moins. Prenez un exemple rapidement pour le pont Champlain. Le monorail pourrait circuler aux abords du pont Champlain comme une espèce de structure suspendue. Donc, le nouveau pont Champlain ne serait pas vraiment accaparé par le fameux transport. Et ça pourrait aussi être partout, parce que ce monorail-là, il pourrait passer de Montréal à Québec, puis il pourrait avoir des jonctions pour Montréal à partir de Chevrier, un exemple, aller à Montréal. C'est très facile, ça passe par-dessus le trafic. Jamais de problème avec la neige, de la manière que la structure est proposée. Il n'y a jamais de problème avec l'histoire de la neige. Alors, moi, je trouve que c'est beaucoup plus économique en construction.
C'est intéressant, le système de moteur roue avec monorail. Il y a juste un problème. Au Québec, on a déjà fait un gros pari avec le Stade olympique. On a fait de quoi d'unique, jamais fait ailleurs dans le monde, une tour inclinée si fantastique. On a investi des... millions de dollars, des centaines de millions de dollars, et on a eu l'air de quoi en 1976 lors des Jeux olympiques, mais la tour n'était pas terminée. On a failli perdre les Jeux olympiques parce que les membres du CIO, on a l'air fou devant la planète entière avec un système unique, novateur. Est-ce qu'on va risquer d'avoir l'air fou avec un système novateur, avec un moteur roue qui va prendre 10 ans, 15 ans à développer, qui va... Moi, j'ai peur qu'on soit gêné devant la planète encore une deuxième fois. Là. Donc, c'est un beau concept, mais je pense que ça va rester au mode expérimental, même pas de concept très, très longtemps.
Je peux peut-être, alors, sur cette dernière question, peut-être juste rajouter un petit quelque chose.
Tu n'as pas fait ton doctorat là-dessus, là?
Non. Jean-François Lefebvre, chargé de cours en études urbaines à l'UQAM, chercheur associé au GRAM également. Donc, c'est juste sur ce qui vient d'être dit, il faut juste nuancer, le tramway a vraiment un rôle à jouer structurant comme transport urbain. Okay? Il y avait des projets de monorail comme interurbain pour remplacer un TGV éventuel par un système comme ça. Ça pourrait effectivement, dans l'interurbain, être une alternative, parce qu'entre Montréal et Québec, on ne fera pas des arrêts à tous les kilomètres. Là. On s'entend, ce n'est pas la même desserte, mais on n'est plus du tout, soyons réalistes, est-ce qu'on va imaginer ici, est-ce qu'on va monter dans des tours pour pouvoir se promener d'un bout à l'autre? Non, on a besoin d'un service de transport au sol, dans lequel les gens rentrent directement, qui fait des dessertes locales. Donc, juste l'intervenant, c'est qu'on a posé la mauvaise question au mauvais problème. Là, on parlait des tramways et du rôle des tramways aujourd'hui, et je pense que c'était vraiment démontré de façon magistrale qu'il y a un rôle beaucoup plus grand. Et la question qu'on doit se poser, c'est beaucoup plus de dire comment ça se fait que 200 villes dans le monde viennent d'en implanter. Donc, là, il n'y a pas quelque chose, justement, il n'y a pas un signal que s'il y a 200 villes dans le monde qui le font, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Puis ce qui nous manque, c'est d'en faire au plus vite un premier à Montréal bien fait. Et c'est pour ça que le travail de messieurs bon, est admirable, parce qu'il pousse justement là où il y a déjà des projets et des sous prévus pour qu'au moins on fasse ça convenablement maintenant. Puis quand les Montréalais vont en voir, bien, oups, la piqûre va se donner, puis après, on va en vouloir une deuxième, troisième, quatrième ligne. C'est ça qui arrive partout. Voilà. Donc, sur ça, je vous remercie énormément d'avoir amené ces éclaircissements.
T'as le droit.
J'ai le droit parce que j'ai été interpellé un peu. Guy Picard, de la Société de transport de Laval. Beaucoup d'intelligence dans cette présentation-là. C'est un vent très rafraîchissant pour quelqu'un qui est dans le domaine depuis longtemps. Félicitations. Mais je me dois de faire une petite mise au point. Le trolleybus à Laval, là, je ne sais pas où vous avez pris ça, là, mais il n'a pas été abandonné parce qu'il y avait des fils sur le boulevard de la Concorde. Vous devriez enlever ça de la présentation. Il a été enlevé parce que d'avoir un trolleybus seulement sur la Concorde, ce n'était pas viable. Ça prend un centre de contrôle, ça prend un garage. Donc, on avait l'axe de la Concorde, l'axe des Laurentides, et une analyse coût-bénéfice qui a été faite. Et l'analyse montrait que ce n'était pas un projet qui était rentable. Ça coûtait très cher d'attendre le GES. Au-delà de ça, il y avait des problèmes parce que, par exemple, à Laval, il y a 60 000 déplacements par jour au complet, ça, sur toutes les lignes. Ça. Donc, on n'a pas une capacité là, dont qui se compare avec ce que vous avez montré tantôt. Et là, c'est un réseau qui est très, très capillarisé. Donc, il y a beaucoup de lignes qui arrivent sur des Laurentides, ce qui fait que les Laurentides deviennent très achalandés, mais c'est très capillarisé. Donc, si on veut rentabiliser un trolley, il faut avoir une ligne de trolley qui est autoportante. Sur Saint-Michel, une ligne peut être autoportante. Elle a son propre achalandage. Nous, c'est un achalandage qui se bâtit avec des lignes qui ont été chercher des gens. T'sais. Donc, il y a un problème de rupture de charge si on amène les gens au trolley. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que les fils. C'est sûr que les fils, on ne voyait pas ça comme un avantage, comme vous l'avez montré, mais c'était un considérant, mais ce n'était pas du tout la raison qui a amené. Et effectivement, dans une. En fait, les perspectives donc, de l'électrification des véhicules, je pense, il y a 5 ans, je ne me souviens pas quand on a fait cette étude-là, peut-être 4 ou 5 ans, là, étaient, je pense, plus roses que ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Et donc, s'il y a plusieurs éléments qui ont amené à la décision de ne pas y aller avec le trolley, là, et des décisions qui étaient basées sur une logique, là, et ce n'est pas une question de fil. Ceci dit, félicitations.
Merci pour ces précisions. Et merci en votre nom et en mon nom personnel aux deux personnes qui ont préparé cette présentation pendant plusieurs mois pour la donner ce soir. C'était fort intéressant. Il y a beaucoup de données, beaucoup de réflexions derrière qui peuvent alimenter à la fois les réflexions des personnes qui sont dans la salle, mais aussi les réflexions partout où on planifie actuellement les transports collectifs pour la région métropolitaine. Alors, je vous invite à la prochaine conférence sur BAC qui est jeudi prochain, le 23, on a un invité allemand sur un nouveau concept qui est l'autopromotion. Là, j'en dis pas plus pour garder le suspense. Alors, bonne soirée.